Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Jeudi 13 novembre 2025, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et vous avez bien raison. Aujourd'hui, avant de commencer cette émission, j'aimerais envoyer une pensée aux 132 âmes qui, il y a 10 ans, ont quitté ce monde par la violence de fanatiques à Paris. Dans des bars parisiens, au Stade de France, au Bataclan, des lieux de vie et de bonheur, l'idéologie islamiste a frappé et tué, a détruit des vies et des familles. Moi, à l'époque, je faisais mes études à Lyon et je me souviens encore de mon trajet vers la fac le lendemain, le 14 novembre. Un silence de mort dans la rue, mais ce dont je me souviens surtout, ce sont les regards croisés avec les passants et les passantes. Des personnes qu'on ne regarde pas normalement, mais des personnes ce jour-là qui cherchaient un réconfort dans le regard de l'autre, comme moi. Des regards furtifs, croisés, mais chaleureux. Des regards qui disent « c'est horrible, des inconnus viennent de mourir et c'est un peu moi aussi qui suis attaquée. C'est horrible, mais on est ensemble. Ensemble dans la douleur, ensemble dans la volonté de résister, ensemble dans le souvenir aujourd'hui. » Tout de suite, le flash de Milia.
C'est l'une des pires affaires de corruption récente en Ukraine. Timur Mendish, ami proche de Volodymyr Zelensky et copropriétaire de la solution de production Gvatar 95, est accusé d'avoir détourné 100 millions de dollars destinés au secteur énergétique ukrainien. Le président ukrainien veut imposer des sanctions et le gel de ses biens. Mendish, qui a quitté l'Ukraine avant que le scandale n'éclate, est aussi soupçonné d'avoir influencé des décisions de hauts responsables du gouvernement. Hier soir, le ministre de l'Énergie et la ministre de la Justice d'Ukraine ont démissionné sur demande du président. Il et elle sont accusés d'avoir perçu des avantages personnels liés à cette révélation. Un vote parlementaire pour entériner leur renvoi est attendu demain. Les enquêteurs et enquêtrices vont avoir de la lecture. Pas moins de 20 000 pages exactement. Des emails liés à l'affaire Epstein dont certains mentionnent le président des États-Unis. Eva nous raconte tout.
Et oui, Donald Trump semble encore dans la tourmente. Ses communications ont été publiées hier par des démocrates siégeant à la Chambre des représentants états-unienne. Les courriels proviennent de Jeffrey Epstein, un des plus prolifiques prédateurs sexuels de l'histoire du pays de l'Oncle Sam. Le milliardaire américain y évoque notamment ce que savait Donald Trump de ses agissements. Pour rappel, le délinquant sexuel, retrouvé mort en prison en 2019 avant son procès, aurait notamment abusé, violé et prostitué des jeunes mineurs, parfois appâtés par sa compagne Ghislaine Maxwell. Parmi les nombreux emails révélés, trois attirent l'attention des médias américains. Dans l'un d'eux, Jeffrey Epstein affirmerait notamment que le président américain, je cite, « savait à propos des filles ». En avril 2011, Epstein écrit à sa complice Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison pour exploitation sexuelle, « Le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Une victime a passé des heures chez moi avec lui, mais il n'a jamais été mentionné », détaille le prédateur. La victime en question serait Virginia Giuffre, repérée à l'âge de 16 ans par Maxwell. Elle est alors employée de spa à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride. En avril dernier, la victime présumée s'est suicidée alors qu'elle dénonçait le trafic sexuel perpétré par Epstein. Le troisième mail incriminant date de 2015. Il s'agirait d'un échange entre un journaliste et Epstein à propos d'une interview de CNN sur sa relation avec le président. Ces documents contredisent la version de Trump. Le mania de l'immobilier a toujours nié son implication dans les crimes sexuels de son ami. Il avait toutefois déjà plaisanté publiquement sur la piscine d'Epstein, selon lui toujours remplie de belles jeunes filles et utilisée par, je cite, « les enfants du quartier ». En juillet dernier, une lettre attribuée à Donald Trump a également été publiée par le Wall Street Journal. Sur ce croquis réalisé en 2003, on voit une femme nue dont le pubis est remplacé par la signature de Trump.
Mais que risque Donald Trump maintenant ? Cela peut-il avoir un impact sur sa présidence ?
La Maison-Blanche a très vite réagi à ces révélations. Pour elle, les démocrates veulent continuer de salir l'image du président Donald Trump. Selon l'administration, les ennemis du président choisissent de révéler quelques courriels de façon sélective. Ils créent ainsi un faux récit sur le cas d'Epstein et sur les liens présumés entre les deux hommes. Mais cette affaire va se poursuivre dans les jours à venir au Congrès. Mike Johnson, président républicain de la Chambre, l'a annoncé. Un vote va avoir lieu la semaine prochaine. Un vote obligeant le ministère de la Justice à rendre public tous les documents en lien avec l'affaire. À suivre donc.
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour Donald Trump aujourd'hui. Le shutdown de son administration prend fin aujourd'hui après avoir attendu 43 jours, un record. Depuis le 1er octobre, républicains et démocrates tentent de s'entendre sur un budget en vain. La paralysie budgétaire a enfin pris fin cette nuit. La Chambre des représentants a validé mercredi soir une nouvelle proposition de loi votée par le Sénat. En convainquant 8 sénateurs démocrates, les républicains ont fait adopter le texte. Donald Trump a ensuite promulgué la loi mettant fin à la paralysie budgétaire. Après l'ouverture du magasin Shein à Paris, la découverte des poupées à caractère pédopornographique et d'armes de catégorie 1 dans le catalogue de revendeurs chinois, l'Union européenne réagit. Les ministres des Finances ont approuvé aujourd'hui la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés dans l'Union européenne. Cette mesure pourrait entrer en vigueur dès le premier trimestre 2026. Le montant de cette taxe n'a pas encore été fixé. Cependant, Bruxelles a proposé au mois de mai dernier une taxe de 2 euros par colis. Cela fait maintenant 10 ans que le Bataclan, le Stade de France et des terrasses parisiennes ont été attaqués. Le pays rend aujourd'hui hommage aux 132 morts et plus de 350 blessés. 10 ans après, la douleur demeure et reste indicible pour les familles des victimes et les survivants et survivantes. Plusieurs hommages ont lieu aujourd'hui dans toute la France. La ville de Paris a inauguré aujourd'hui un jardin mémoriel auquel l'entreprise bretonne, Bretagne Granit, a contribué à créer. Plus de police dans le nord-ouest de Rennes. Suite à un manque d'effectifs, le commissariat de Villejean situé sur la dalle de Kennedy est fermé pour une durée indéterminée. La fermeture de ce poste a des conséquences sur la vie des habitants du quartier. La mairie de Rennes dénonce un manque d'effectifs dans la police. Un détenu de 28 ans a été retrouvé mort dans la prison de Vezin-le-Coquet cette nuit. L'homme aurait allumé un feu dans sa cellule. Une vingtaine de pompiers sont intervenus. À leur arrivée, le feu avait déjà été maîtrisé par le personnel pénitentiaire. Il y a tout juste une semaine, la scène folk rock rennaise vibrait au son d'Atrium. Le groupe célébrait la sortie de Watery Grave, son tout premier album, lors d'une release party chargée d'énergie et de complicité, dont les prémices remontent aux années lycées. Une aventure née de la passion, de la collaboration et du bouillonnement créatif local. Watery Grave sera à portée de toutes les mains le 28 novembre prochain.
Nous sommes le 6 novembre et Rennes s'apprête à résonner au rythme d'un nouveau projet musical. Atrium s'apprête en effet à célébrer la sortie de son premier album, Watery Grave, au Café des Champs Libres. Entre folk rock et touches progressives, ce projet est né de la rencontre de musiciens locaux et de l'énergie créative de la ville. Un album engagé, inspiré par les rues, les cafés et les histoires qui font vibrer Rennes. Watery Grave sera disponible officiellement le 28 novembre de cette année.
Bah c'est un peu un vivier aussi à musique émergente Rennes et du coup c'est trop bien pour les jeunes projets et tous ces projets qui sont en voie de professionnalisation parce qu'il y a matière de faire des rencontres et d'être accompagné. Et puis je pense aussi à l'aspect militant d'Atrium où en fait la rencontre on s'est rencontrés rapidement mais les prémices humaines c'était quand même sur les blocus des lycées rennais. Et donc il y a aussi tout ce pan et musical et militant aussi au sein de Rennes qui nous a laissé de la place et de l'espace en fait. Donc ouais, Rennes, c'est un chouette lieu pour nous. On a une majorité de meufs sur scène, et même jusqu'au son. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent et qui font que Atrium, c'est militant. Ouais.
Basé à Rennes, Atrium fait partie de cette nouvelle génération de groupes qui façonne la scène locale. Entre les studios partagés, les cafés-concerts et les rencontres entre musiciens, la ville a accompagné la naissance de leur premier album, Watery Grave, qui paraîtra le 28 novembre prochain. Ce 6 novembre, c'est au Café des Charlies qu'il le présente au public, un lieu symbolique pour la scène indépendante rennaise. En première partie, Cat White, autre nom qui monte dans le paysage folk local, complète une soirée 100% rennaise.
Un reportage signé Roman Flock.
Merci Milia pour ton journal. On va passer à l'interview. Petite virgule interview, s'il vous plaît.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est Marion ce soir. Qui reçois-tu, Marion ? Alors, je crois qu'on t'a pas entendu, vas-y, recommence.
Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Dacco, qui porte des superbes lunettes noires. Vous êtes le co-directeur d'EROUP, une structure qui vise à mettre en avant le monde du cirque, autant à l'échelle locale qu'internationale. Du 14 au 16 novembre, vous participez à la Nuit du Cirque. En quoi ça consiste ?
Bonsoir. La Nuit du Cirque, eh ben c'est un super événement qui est porté par une association nationale qui s'appelle Territoire de Cirque, qui regroupe une quarantaine de structures nationales du coup, qui travaillent autour du cirque. Donc tu as les 14 pôles cirque nationaux, tu as des festivals, des scènes nationales, des scènes conventionnées, et puis des scènes intermédiaires comme la nôtre, qui est scène de territoire. Et chaque entité, régionale, locale, essaye de dynamiser son propre territoire en coopérant avec des structures plus ou moins grandes. Et dans le cadre de cette Nuit du Cirque, nous, on coopère avec 5 structures de Rennes Métropole, voire du département de l'Ille-et-Vilaine.
Donc, tu l'as dit, 5 spectacles différents sont prévus lors de la Nuit du Cirque. Pourriez-vous nous parler un petit peu de la programmation, de ce que vous avez prévu de faire ?
Ouais, avec plaisir. Du coup, c'est une programmation très éclectique, puisqu'on travaille en coopération avec les SAN et les partenaires du département. Donc en fait, chacun va donner une orientation. Chez nous, il y aura une orientation un petit peu, on va dire, curieuse, avec la compagnie Barks, qui est actuellement en résidence et qui travaille sur des nouveaux agrès de cirque. Donc là, il y aura une sortie de résidence. Chez nous aussi, au milieu, à Saint-Jacques-de-la-Lande, il y aura une soirée qu'on a appelée Magic Glouglou. Dans le mille, en fait, c'est de la magie et du vin. Voilà, pour 40 personnes, au coin du feu, il y aura dégustation, disparition de bouteilles, apparition de vin rouge.
Trop bien.
Ça va bien se passer, hein, ça va bien se passer. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. L'année dernière, dans la même nuit du cirque, l'année dernière, on a fait ça et ça avait cartonné. Rapidement, au Grand Logis, le complexe de l'autruche, des acrobates, des équilibristes. C'est rare d'avoir beaucoup d'interprètes au plateau, les financements s'amenuisant. Ça a un impact aussi sur les créations produites. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de solos, de duos. Et là, pour le coup, ils sont 6 acrobates, donc c'est rare à voir. Donc j'invite toutes les personnes qui veulent voir du monde au plateau et voler les gens au plateau d'aller au Grand Logis avec le complexe de l'autruche. Tu veux que je te fasse toute la liste ou...
Alors, tu peux.
Alors il y a un truc. Donc enfin, voilà, il y a plein de trucs à voir sur la Nuit du Cirque. Il y a un truc qui est assez rigolo à voir. C'est un spectacle qui s'appelle Hold On, de la compagnie Phil Concept. Ça aura lieu du coup à Saint-Gilles, au Sabot d'Or et à l'espace Beau Soleil à Pompéan. C'est en fait une forme qui allie cirque et nouvelles technologies. En fait, on met des casques à réalité virtuelle sur nous et en fait, on devient acrobate. On va faire du tissu aérien. Et moi, j'ai jamais fait tissu aérien. Et pour le coup, pendant 20 minutes, j'ai vraiment l'impression que je monte au tissu. Je me retrouve en haut des cintres. Je vois le public en bas. Je vois mes collègues interprètes qui sont avec moi, qui me font des signes, machin. Je me retrouve la tête en bas. Je glisse. Et c'est assez bluffant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec ces casques à réalité augmentée. Voilà, donc c'est pour petits, pour grands, pour vieux, moi, je... Enfin, tout le monde. Et c'est vraiment assez unique. Donc c'est une chance de les avoir avec nous dans le cadre de la Nuit du Cirque.
Il y a aussi un spectacle qui s'appelle donc Variation pour un parapluie par la chouette compagnie Il pleut, qui est peut-être davantage adressé à un jeune public. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir aussi des spectacles accessibles pour tous les âges?
Ouais. Accessible ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exigeants. Voilà. En fait, c'est hyper rare de trouver des spectacles de cirque qui tiennent la route pour le jeune public. Souvent, ça devient... Enfin, souvent, ce sont des propositions assez gnangnang. On est plutôt dans l'animation. Enfin, voilà. Donc, c'est hyper rare. Donc, on est assez content d'avoir trouvé ce projet-là qui, du coup, allie petite performance, manipulation et en même temps éveil. Enfin voilà, il y a un truc très, très malin dans l'approche. Donc c'est suffisamment rare pour le préciser. Merci beaucoup.
Et tout ça dans un univers très coloré, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, bah en fait, pour tenir un peu éveillé les pioupiou, il faut qu'à un moment donné, il se passe des choses. Il faut qu'il se passe des choses avec de la couleur. Enfin, voilà. Donc ça a été fait de façon très maline.
La compagnie Barks propose aussi des ateliers pendant la nuit du cirque. À quoi peut-on s'attendre?
On va s'attendre à ce que du coup, on puisse manipuler des choses qu'on n'aura jamais manipulées. J'en dis pas trop, parce qu'en fait, il faut garder la surprise. C'est vraiment de la manipulation. Bastien, en fait, en plus de travailler sur des agrès qu'il crée lui-même, travaille sur la pesanteur. Donc en fait, on va pouvoir s'imaginer travailler avec des objets légers, lourds, qu'on va peut-être lancer, qui vont voler, qui vont tomber. Enfin voilà, en fait, on va jouer avec tout ça.
Les spectacles proposés comme le complexe de l'autruche, donc qu'on a évoqué tout à l'heure, ou Fondation, montrent que le cirque, c'est un espace avant tout d'expression pour le corps. Dans ce contexte, est-ce essentiel pour vous de créer une cohérence entre les différentes propositions artistiques dans votre programmation?
Oui et non, mon capitaine. On va dire que dans le cadre de la nuit du cirque, il n'y a aucune cohérence. C'est chacun des partenaires qui va nous dire « Moi, j'ai cette proposition-là, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça rentre dans le cadre ?» etc. Et dans le cadre de la nuit du cirque, plus on est nombreux et mieux c'est. Parce que c'est quand même la fête du cirque. Voilà. Et on ne se voit pas de dire à un partenaire « Oh ben non, ta ligne artistique, on n'est pas d'accord. » Donc en fait, dans le cadre de la nuit du cirque, on est d'accord avec tout. Voilà. Par contre, dans le cadre du festival, là pour le coup, on souhaite défendre une ligne et on discute avec les partenaires justement de qu'est-ce qu'on a envie de défendre chaque année, enfin chaque biennée, puisque c'est une biennale maintenant. Donc, nuit du cirque, tout le monde est le bienvenu, c'est la fête, on peut montrer n'importe quoi tant que c'est du cirque. La biennale, le temps fort, on s'attache à ce que du coup, il y ait une ligne propre à chaque édition.
Du coup, pour la nuit du cirque, comment vous choisissez les spectacles qui vont avoir lieu? Parce qu'on ne peut pas, j'imagine, tout faire non plus. Ça ne se déroule que sur 2 jours. Donc, comment vous gérez ça?
Alors, je vais parler des spectacles qu'on choisit, nous, dans notre milieu à nous, le lieu qu'on exploite.
Avec M majuscule. Voilà.
c'est de l'opportunité. Hein. Là, Bastien, avec sa sortie de résidence et son atelier, c'est juste qu'ils sont là actuellement en résidence. Du coup, on profite de leur présence. Mmh. Voilà. Donc, ça tombe bien parce que c'est plutôt une super compagnie. Donc, on a de la chance. Enfin, en tout cas, le public a de la chance d'avoir Bastien et la compagnie Barks actuellement chez nous. Et puis, la Magic Glou Glou, c'est parce qu'on a fait ça l'année dernière, que ça avait cartonné, que ça a créé plein de frustrés. Et qu'on s'est dit qu'on allait la refaire. Donc, en fait, on ne s'est pas creusé tant les ménages que ça. On a dit, ça marche. Ça a créé de la frustration. On la refait. Et ça a tellement créé de la frustration qu'on est en train de se dire qu'on va la faire 4 fois par an, à chaque saison. Parce qu'en fait, comme il y a du vin, on se dit qu'il y a peut-être des dégustations en fonction des saisons qui sont plus appropriées. On se dit qu'un petit rosé frappé au mois de juillet, ça peut être cool. Enfin, voilà. Du coup, on va peut-être se le mettre comme une sorte de fil rouge de la saison, voilà. Comme c'est une petite jauge en plus, voilà, ça permettrait d'en faire 4.
Trop bien. La nuit du cirque se déroule donc sur 2 jours seulement. Selon vous, le cirque aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisamment mis en avant dans le monde du spectacle?
Alors, ça dépend de quel cirque on parle et de quel genre de cirque on parle. Je pense que oui. Sortie du Covid, en fait, ça a été la discipline phare dans bon centre de centre, enfin dans bon nombre de centres culturels, scènes nationales, etc. Les directions se sont dit « Waouh, le public est parti, il faut qu'ils reviennent. Comment on va les faire revenir ?» Eh ben, par le cirque. Ça a été la discipline qui a été le plus programmée ces dernières années. Après, quel cirque ? Et en fait, on a fait une sorte de petit retour en arrière, parce que ben, pour refaire venir les gens dans les salles, on a profité du cirque, mais sur le côté amusement, familial, et pas prise de tête. Et donc, du coup, on a fait une sorte de rétro-pédalage, là où le cirque avait pris de la maturité et s'était engagé sur des vrais sujets de société, tels le genre. Et en fait, ce ne sont pas ces formes-là qu'on a vues dans les plateaux. Ça a été vraiment des formes très familiales, on ne se prend pas le chou. Et donc, du coup... c'est très diffusé. On n'a pas à se plaindre, en tout cas, comparé à la danse contemporaine. Mais il y a un certain genre de cirque qui en a pâti. Et donc, je pense que c'est plutôt ce cirque-là, aujourd'hui, qu'il faut continuer à défendre.
Si tu devais, du coup, convaincre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cirque, on pourrait dire contemporain, dans ce qui est proposé, s'il fallait donc convaincre quelqu'un de venir, qu'est-ce que tu lui dirais ?
On avait dit pas de questions pièges. Qu'est-ce que je lui dirais ? En fait, je lui dirais que on a cette chance-là que quand on évoque le cirque, c'est forcément une discipline familière. C'est-à-dire que si autour de la table là, on est cinq, je vous dis cirque, vous avez forcément une image qui vous vient. Elle est peut-être pas juste. En tout cas, c'est la vôtre. Et en tout cas, c'est avec celle-là que vous pousserez la porte. En fait, c'est une discipline qui avec laquelle on s'autorise à... J'ai craché sur la bonnette. On s'autorise à pousser la porte d'un cirque. Le cirque, c'est un chapiteau, c'est des sièges en bois, il y a forcément un mât devant toi. Au bout d'une heure et demie, t'as mal aux fesses, t'as rien vu, mais t'as passé un moment incroyable. Et en fait, c'est cette image-là très familière qui va te permettre de dire, bah, si au Grand Logis, si au TNB, je vois cirque, eh ben, je vais y aller parce que c'est cette image-là. Et en fait, ça va nous permettre, à nous, programmateurs de cirque, de te montrer complètement autre chose, possiblement de la danse, possiblement, des arts numériques, possiblement d'un truc très, 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 très contemporain, hyper poussé, de la capillotraction, enfin voilà. Tu auras vu plein d'autres choses, possiblement. Mais en fait, la porte cirque t'aura permis, du coup, de t'autoriser à venir. Et je pense qu'il faut s'autoriser à venir du cirque, parce que justement, en venant voir du cirque, on vient voir plein d'autres choses.
Bon ben, je ne sais pas s'il vous a convaincu, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Les places pour les spectacles sont disponibles via la billetterie en ligne sur aero.com. Peut-on réserver autrement des places en dehors de la billetterie en ligne ?
Je vais te dire une bêtise, je crois qu'on peut aller directement sur les sites des salles partenaires, et je crois que même via Destination Rennes, on peut avoir des places.
Peut-être, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel du coup des différents sites sur lesquels ont lieu les spectacles ?
Alors je chausse mes belles lunettes. Il y a le complexe de l'Autruche qui du coup joue à Bru, au Grand Logis, qui est pour moi une des plus belles salles de la métropole. Enfin, si vous n'avez jamais vu de spectacle au Grand Logis, allez-y, parce que la relation scène-public est vraiment chouette. Il y a l'espace intergénérationnel de l'IFRE, où on va voir Variation pour un parapluie, la forme pour le jeune public. Et il y a Pompéan à l'espace Beau Soleil et Saint-Gilles au Sabot d'Or, où on va voir le spectacle Hold On avec la réalité augmentée, où on devient... acrobate.
En dehors de la nuit du cirque, vous organisez aussi donc avec Eroupe et accueillez aussi donc d'autres représentations. Quels sont les prochains spectacles à venir ?
Alors là, je ne parlerai qu'en présence de mon agenda.
Qui n'est pas là.
Qui n'est pas là. Depuis qu'on exploite le milieu, donc à Saint-Jacques-de-la-Lande, ça fourmille d'activités. Et je vais vous dire que des bêtises. Donc en fait, je crois que le mieux, c'est d'aller sur le site www.eroupe.com, et là, vous aurez toutes les sorties de résidence, toutes les avant-premières, parce que cette année, c'est une nouveauté, on fait des avant-premières au milieu, et toutes les activités de partenariat. Et donc là, pour le coup, le site, normalement, ne dit pas de bêtises.
Trop bien. Beau rattrapage. Actuellement, ça s'est passé récemment, je voulais revenir là-dessus. Dimanche dernier, l'école du cirque Naftaline, présente donc dans le sud du Finistère, a été dissoute, faute de subvention. Le contexte est assez difficile pour les associations. Comment va Héroupe aujourd'hui?
Écoute, ça va plutôt pas mal. En fait, on a deux pôles d'activité, comme je disais tout à l'heure, hors antenne. On a un pôle accompagnement d'artistes, donc ça, c'est la cellule de production. J'ai 2 heures ou pas?
Non.
J'ai deux minutes. Donc, on a un pôle qui est création, c'est la cellule de production. On accompagne des artistes dans tout ce qui est production, diffusion, administration, communication. Donc là, c'est le pôle où on vend des spectacles aux salles. Ça se casse la gueule. Voilà, puisqu'on est à moins 35% d'activité, et ça, c'est toutes les compagnies, c'est toutes les structures de diffusion. La DIF, ça se plante. Voilà. Et après, on a un autre pôle d'activité qui est territoire, où là, c'est festival, action artistique et culturelle, résidence. Et là, pour le coup, la casquette d'opérateur culturel, elle va plutôt très bien. Et là, pour le coup, je remercie nos tutelles financeuses, parce que là, ce n'est que de l'argent public qui nous est gentiment donné. Voilà, pour qu'on puisse avoir cette activité-là. Et on est extrêmement bien soutenu, notamment par la métropole de Rennes, sans qui on ne pourrait pas développer tout ça. Donc en fait, ça va aller mieux.
Bon, et bien pour que ça continue d'aller mieux, je vous invite à venir lors de la Nuit du Cirque voir ces différents spectacles. Merci Olivier d'être venu.
Merci pour l'invitation.
Pour rappel, donc, la Nuit du Cirque a lieu ce week-end du 14 au 16 novembre dans plusieurs villes d'Ille-et-Vilaine. Vous retrouverez toute la programmation sur le site d'Héroupe.
6 heures avant minuit.
La saison passée, Cesse vous a parlé de manger local et saisonnier, de stratégies culinaires en période forte chaleur et des violences dans les cuisines françaises. Dans la sauce, la chronique est de retour et cette fois-ci, il sera question de flemme et d'accessibilité.
Bienvenue dans la sauce, la chronique culinaire qui s'intéresse à une bouffe ancrée dans la société. J'ignore si c'est la dépression hivernale qui tire parti de la crise climatique, à moins que ce soit le changement d'heure qui me déboussole complètement, mais à la maison, c'est pas la patate. Alors je scrolle sur les réseaux et je vois défiler par paquets des recettes dites de la flemme. La promesse, se préparer quelque chose de bon et sain, mais sans effort. La réalité, ce qui m'est présenté comme facile, m'a tout à fait l'air insurmontable. Je veux bien qu'une recette de pâtes, ça puisse rentrer dans l'imagerie de la flemme. Mais si pour les accompagner, tu me proposes de cuire des légumes dans un panier vapeur et de sortir le blender pour mixer la sauce de mes rêves, moi je pense juste à la vaisselle qui va m'attendre derrière. Soyons honnêtes, si on doit sortir plus d'une casserole, est-ce qu'on est encore vraiment dans une recette de la flemme ? Quand j'étais en études et que je découvrais les joies et la charge mentale de la vie indépendante, j'avais pour tout équipement un frigo, une plaque, une casserole et un lavabo. Oui, même pas un évier les amis. Et c'est comme ça que j'ai développé une pure recette de la flemme que je m'en vais vous livrer. J'ai nommé les brocos soba. On commence donc avec des soba, des nouilles japonaises au sarrasin, qu'on envoie en cuisson dans une eau frémissante. Ça nous laisse le temps de tailler le tronc d'un brocoli qu'on va éplucher sobrement. Et on envoie tout ça dans la casserole avant de passer à nos têtes fleuries. Ainsi, soba et brocoli cuiront dans la même eau en parfaite osmose. Je vous laisse ajuster le tempo et la découpe de vos légumes pour trouver la texture plutôt fondante ou croquante qui vous conviendra. Le temps que soba et brocoli atteignent la parfaite cuisson, prenez bol ou assiette, peu importe, préparez un lit de fromage blanc que vous viendrez ensuite assaisonner au choix de vinaigre balsamique et ou de sauce soja salée. Un filet d'huile d'olive peut également être le bienvenu parce que les oméga 3, ça fait toujours du bien. On essore le fruit de notre cuisson, on serre, on touille et on déguste. Et pendant qu'on savoure tout ça, questionnons-nous 2 secondes sur l'intitulé « Recette de la flemme ». Flemme, sentiment de paresse, désir de ne rien faire. Avoir la flemme, synonyme fainéantise. Alors, peut-être que ces créatrices de contenu qui répondent aux trends et aux injonctions de production des plateformes ont une autre appréhension du concept de recette de la flemme. Mais moi, dans mon monde, avoir besoin de recettes, entre guillemets, de la flemme, c'est développer des stratégies pour s'en sortir, pour se nourrir convenablement en optimisant son temps. Parce que, en 2019, l'Agence nationale de santé publique publiait un bulletin épidémiologique hebdomadaire sur le temps de sommeil en France. Je cite les conclusions. Si le temps de sommeil total sur 24 heures est proche de 7 heures en France, une proportion cependant élevée de Français et Françaises dort moins de 6 heures, sont en dette ou en restriction de sommeil. En 2022, un sondage IFOP est publié. Près de la moitié des Français et Françaises se sentent fatigués, démoralisés, stressés et irrités. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en train de vous essouffler à la préfecture pour renouveler vos papiers, de vous débattre avec la MDPH pour prouver que vous êtes assez handicapé, ou de serrer les clés dans votre poche en rentrant le soir chez vous, ou mille autres facteurs dont je ne peux pas faire la liste exhaustive ici, bah ça veut dire que même si vous n'avez pas d'autre combat que celui-là, on est fatigué en fait. Alors bon, on y a droit à ces petites recettes pour nous remonter le moral rapido pesto.
Je voudrais devenir député ou ministre. Il paraît qu'à la chambre, on baille à qui mieux mieux. Les débats sont rasants, les discours sont sinistres. Et c'est dans ces métiers que l'on vit le plus vieux.
Merci Cess pour les conseils culinaires et pour la playlist. À bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode de Dans la sauce. Eva, est-ce qu'il y a des messages sur le répondeur?
Ben je sais pas. Je crois qu'il faut qu'on aille voir où pour savoir.
Ben, clique.
Vas-y, je clique.
Clique.
Ah. Oui, oui. Hmm.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô.
Allô.
Syllab, la radio sauvage.
Non ! Mon répondeur ! Technique, retrouve-moi le message ! La technique est en train de retrouver le message, veuillez patienter. Le petit message est attendu à l'accueil. Répondeur, répondeur.
Bonjour.
Je crois qu'on a le générique en même temps.
Ah ! C'est que aujourd'hui, je me suis rappelé du souvenir qu'on avait au collège. Les verbes irréguliers. Ah, c'était tellement bien. Cut, cut, cut. C'était le seul mot que je savais retenir. Voilà. Bah, bon courage.
Ben, merci, cher auditeur. J'espère que tu en as appris d'autres des mots irréguliers depuis le temps, à part cut, cut, cut. Et puis, petit message perso, la drogue, c'est mal, vous voyez.
Ouais. On est loin du débat d'hier quand même. Mince.
Si vous voulez nous laisser un message peut-être un petit peu plus intéressant, n'hésitez pas. Notre numéro, c'est le 02 30 96 25 35. On vous écoute, exprimez-vous. Merci Roman et Lucas pour la technique. Et à lundi dans 6 heures avant minuit.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.